Bonjour, frères et sœurs. Donc, nous sommes dans l'Épître aux Romains. Nous avons terminé la semaine passée la première partie, la première section de l'Épître qui se termine au chapitre 3, verset 20. Donc, nous sommes rendus au chapitre 3, verset 21. Mais dans cette première partie, il a été clairement établi que le péché est un problème universel. Ça concerne tous les hommes sur la terre. Et Paul l'a spécialement dit ou rappelé aux Juifs qu'ils étaient finalement dans le même bateau, pris dans la même tempête. Le péché est universel et à cause de cela, la condamnation de Dieu pèse sur tout homme. Parce que Dieu est un Dieu juste, un juge impartial qui juge le monde avec une parfaite justice. Donc jusque-là, dans l'Épître aux Romains, la justice de Dieu faisait appel à la condamnation, au jugement sévère de Dieu. À cause de sa justice, il doit punir le coupable, peu importe sa nationalité. Pourtant, la justice de Dieu est aussi présentée comme une bonne nouvelle au verset 16, en Romains 1, 16. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, le péché est un problème universel et la justice de Dieu fait en sorte que tous sont condamnés, mais pourtant, la justice de Dieu est au cœur même de la bonne nouvelle de l'Évangile. Comment ça fonctionne, ça? Mais c'est maintenant le temps, rendu au verset 21 du chapitre 3, Romains 3, 21, d'exposer comment c'est possible d'être sauvé. Qu'est-ce que signifie la justice de Dieu dans le sens positif? Romains 3, 21, nous lisons jusqu'à la fin du chapitre. Quel est donc... Non, pardon, verset 21, je parle d'une place. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attesté dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Mais il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera, en vertu de la foi, les circoncis et au moyen de la foi, les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes, non. Au contraire, nous confirmons la loi. Ce passage-là, c'est certainement le cœur de l'Épître aux Romains, un des passages que plusieurs pourraient qualifier comme le cœur de toute la Bible même, le centre vraiment du plan de salut de Dieu pour l'humanité. On arrive vraiment au point crucial où on voit comment Dieu a mis en place son plan, comment il peut nous sauver. C'est ce qui va suffire à... La foi, c'est ce qui est surprenant dans cette annonce de l'Évangile, est suffisante pour sauver l'homme, pour être justifié. C'est vraiment un message extrêmement important, finalement, qui a une portée même sur notre destinée éternelle. Et c'est ce que les réformateurs ont redécouvert, puisque ça, c'était toujours écrit, mais dans les années au 16e siècle, alors que ce n'était pas ce qui était enseigné. Ce qu'on enseignait dans les églises chrétiennes, c'est qu'il fallait s'efforcer de faire de bonnes œuvres, et peut-être que le poids des bonnes œuvres allait surpasser le poids des mauvaises, et ainsi espérer avoir la miséricorde de Dieu, être compté parmi les justes. Mais le poids, cette culpabilité, restait toujours présent dans le cœur de ceux qui étaient assez honnêtes pour avouer qu'ils demeuraient pécheurs. Donc, il n'y avait pas de solution, et les gens demeuraient dans le désespoir. Mais les réformateurs, dont Luther, Calvin, ont redécouvert cette vérité précieuse, que le salut est donné par la grâce de Dieu seul, par le moyen de la foi. Et ça a provoqué une grande réforme. Et malheureusement, l'Église catholique elle-même n'a pas été réformée, mais ça a provoqué la naissance du protestantisme et puis la foi, la doctrine chrétienne évangélique. On peut remercier le Seigneur pour ça, pour ce grand réveil. Mais donc, au cœur de cette réforme-là, c'était justement la doctrine de la justification par la foi, contrairement à la justification par les œuvres. Donc, être déclaré juste par la foi seulement. Et cette justification par la foi, là, on peut voir quatre implications dans le passage. Il y a beaucoup de choses dans le passage qu'on vient de lire. Quatre implications par rapport à la justification par la foi. Premièrement, c'est le seul moyen d'être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas juste une façon facile d'être sauvé, c'est le seul moyen d'être sauvé. Deuxièmement, elle fait en sorte qu'on doit exclure tout orgueil. Il n'y a pas place à l'orgueil dans ce plan de salut-là. Troisièmement, ça inclut toutes les nations. Le même plan de salut pour toutes les nations. Et finalement, ce plan-là n'est pas comme un plan B, parce que le plan A n'a pas fonctionné. C'est vraiment la suite logique là, du plan de salut de Dieu. En fait, ça vient confirmer même la loi de l'Ancien Testament. Donc, le passage commence au verset 21 par deux mots là, qui sont vraiment lourds de sens. « Mais maintenant, now, aujourd'hui, présentement, enfin, nous sommes arrivés dans cette nouvelle ère. » Donc, ça, Paul indique vraiment un passage d'un ancien régime vers un nouveau régime. « Maintenant, enfin, le salut est venu. » Le Sauveur est né, comme on voit dans les Évangiles, il est mort, ressuscité pour nous. Mais les temps de la fin annoncés par les prophètes sont arrivés. Nous sommes passés dans ce temps-là. Donc, depuis la venue de Jésus, le monde est passé dans une nouvelle ère où la justice de Dieu est manifestée. Donc, il nous semble quand même que la justice de Dieu était manifestée dans l'Ancien Testament. Mais c'était rien en comparaison à maintenant sa justice qui est manifestée d'une manière nouvelle et comme annoncée par les prophètes. Donc, ce n'est plus l'ancien régime de la loi qui, finalement, de manière pratique, n'a fait qu'attiser la colère de Dieu. Parce que les hommes étaient incapables de suivre la volonté de Dieu déclarée dans sa loi. Nous sommes maintenant dans l'ère de la grâce. Et c'est l'ère que les prophètes avaient annoncé, même la loi annonçait cela. Un nouvel âge où la justice de Dieu allait être révélée. Et nous y sommes, dans ce nouveau régime de la grâce de Dieu, où la justice de Dieu est manifestée, comment? Par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient en Jésus. Donc, c'est vraiment d'une manière positive en plus de négative que la justice de Dieu est montrée. Et ça, c'est autant vrai pour les Juifs que pour les gens de toutes les nations qui sont appelés, dans Romains, les païens ou les incirconcis. Donc, c'est nous, finalement. Quel grand privilège d'être né dans cette ère. On aurait pu naître avant la venue de Jésus. Mais nous sommes heureusement nés après la venue de Jésus. Nous sommes en 2022, après Jésus-Christ. Et c'est tout un privilège que nous avons. Surtout qu'un jour, quelqu'un nous a annoncé cette bonne nouvelle-là, que nous avons pu nous réconcilier avec Dieu. D'autant plus que nous sommes, je pense, tous d'origine païenne. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est d'origine juive ici, parmi nous. Bon, c'est tout un grand privilège que Dieu nous a fait, une grâce. Et le verset 23 le rappelle. Il n'y a pas de distinction, finalement, qu'on soit juif ou qu'on soit païen, incirconcis, il n'y a pas de distinction, tous ont péché. Tous, un jour ou l'autre, qu'ils connaissaient la loi de Moïse ou non, ont commis des actes qui ont attisé la colère de Dieu parce qu'ils étaient mauvais, parce que la Bible déclare être des péchés. Nous avons tous péché, et à cause de cela, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, le problème du péché est universel, peu importe son origine ethnique, peu importe sa culture, peu importe sa religion, peu importe son rang social, qu'on soit né même comme fils d'un président ou qu'on soit né très pauvre, peu importe son degré de scolarité, d'éducation, peu importe même si on est une bonne personne ou un voyou, ça ne fait pas de différence. Tous ont péché et à cause de cela sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, cette première constatation-là, malheureuse, on la voit dès le début de la Bible, hein, où Adam et Ève ont été créés parfaits, ils vivaient en harmonie avec Dieu, et Dieu leur a donné toute une grande liberté, il leur a interdit une seule chose, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et malheureusement, ils ont cédé à la tentation du diable, et ils ont péché. C'est ce qui a provoqué la chute de l'humanité entière. On lit dans Genèse 3, 22 à 24, « L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main aussi pour prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, Il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc vraiment, Dieu chassait l'homme loin de sa présence, mais loin aussi de l'accès à l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Donc ça correspond finalement à une condamnation à la mort. La mort non seulement physique, mais la mort spirituelle. Et les descendants d'Adam et Ève ont tous hérité de cette nature corrompue, qui a été tordue. L'image de Dieu en Adam a été corrompue, ternie. Et tous leurs descendants, tous leurs enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants ont hérité de cette même nature qui porte inévitablement tout homme et toute femme à pécher, une nature pécheresse, et qui rend finalement inévitable le fait que tous les hommes vont pécher contre Dieu. Ils vont un jour ou l'autre désobéir à la volonté de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas la loi dans la Bible vont agir, sachant qu'un Dieu existe, vont se tourner contre lui et vont s'élever comme étant les propres dieux de leur vie et vivre en rébellion au Créateur. Donc cette séparation-là que Dieu a connue avec Adam, ou que Adam a connue d'être séparé de Dieu, c'était aussi une séparation spirituelle. Et cela, tous les hommes la connaissent, qu'on en soit conscient ou non. Les hommes sont, à cause de leur nature pécheresse, séparés spirituellement de Dieu. Et verset 23, l'expression qui est utilisée, c'est « privé de la gloire de Dieu ». Cette gloire de Dieu dont sont privés les hommes fait référence surtout à la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu, non seulement pendant la vie sur terre, comme on le chantait tantôt, une chose qui est précieuse pour nous, c'est que Jésus est au milieu de nous, présent parmi nous. Mais ça ne va pas de soi pour tous les hommes sur la terre. Normalement, à cause du péché, Jésus n'est pas en contact, Dieu n'est pas en relation intime avec sa créature. Donc, les hommes sont privés de cette présence glorieuse de Dieu-là, mais ça va se concrétiser d'une manière éclatante à la fin des temps. Lorsque la gloire de Dieu va se révéler, les hommes vont réaliser, finalement, à quel point cette gloire de Dieu est la chose la plus précieuse qui existe. Un prix infiniment élevé qui surpasse tous les biens qu'on pourrait avoir sur terre, toutes les choses qu'on pourrait rechercher comme expérience, comme joie. Cette présence-là, là, d'être avec Dieu le Créateur, finalement, va leur glisser des mains. Et les hommes, à cause du péché, vont être rejetés de Dieu. C'est littéralement l'enfer. C'est une mort spirituelle pour l'éternité. Donc, la gloire de Dieu, c'est vrai qu'on en ressent déjà les effets d'en être séparés pendant cette vie. Mais c'est surtout en lien avec l'événement futur du jour du jugement, où les hommes seront privés de sa gloire. Au chapitre 5, toujours dans Romains, Paul en parle au futur. Que ceux qui sont heureusement sauvés ont l'espérance de la gloire de Dieu. C'est quelque chose dans laquelle on espère, un jour d'être dans la gloire de Dieu. Dans Romains 8, il parle de la gloire à venir qui sera révélée. Jésus, nous savons, nous prépare une place. Il prépare une place pour le peuple de Dieu, une nouvelle terre où la justice va régner, où il n'y aura plus de péché, plus de douleur, plus de souffrance, où Dieu veut habiter au milieu de ses créatures. Mais à cause du péché, normalement, aucun homme n'y aurait accès. Dieu ne peut pas tolérer dans sa sainte présence un être qui est corrompu par le péché, qui viendrait le souiller. C'est impensable. Donc, tous les hommes qui ont péché, malheureusement, n'auront pas accès au ciel, à la nouvelle terre, à la gloire de Dieu. Donc, la glorieuse présence de Dieu, le bien le plus précieux, sera. Les hommes en seront privés, malheureusement. Mais il y a une bonne nouvelle. Verset 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en le Christ Jésus. » Donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu justifie les hommes gratuitement par sa grâce. C'est, même en français, on appelle ça un pléonasme. La grâce de Dieu, elle n'est jamais méritée. La grâce de Dieu, c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. On ne peut pas sortir un million de dollars pour essayer d'acheter la grâce de Dieu ou sa faveur. C'est toujours, par définition, quelque chose qui est immérité. C'est un don, un cadeau du Créateur. Mais Paul spécifie en plus, précise pour qu'il n'y ait vraiment aucun doute, là, gratuitement. C'est Dieu qui fait tout le travail. C'est Dieu qui sauve par sa grâce. Et être justifié, on le comprend dans la Bible, c'est être déclaré juste par Dieu. Donc, Dieu fait le cadeau à certains d'être déclaré juste. Donc, Dieu, en tant que juge, rend un verdict, et même Jésus nous dit que c'est tellement certain le verdict qu'il va rendre au jour du jugement, que c'est comme s'il l'avait déjà rendu maintenant. On peut être assuré, le verdict est déjà sur ceux qui croient en Jésus. Ils sont innocents. Donc, Dieu déclare non coupable pour ceux qui croient en Jésus. Pourtant, notre liste des péchés est quand même longue, on doit l'avouer chacun de nous. Sachant cela, Dieu quand même regarde les pécheurs qui croient en Jésus et les déclare non coupables. Comment ça fonctionne? Comment c'est possible? Parce que Jésus nous a rachetés. C'est par la rédemption de Jésus. La rédemption, c'est un mot qui veut dire le rachat ou la libération de l'esclavage. Comme le peuple d'Israël était captif, était en esclavage en Égypte, vivait sous la servitude, et Dieu les a rachetés. C'est une grande rédemption. Il les a rachetés pour être à lui, pour être son peuple. Et par le fait même, il les a libérés de l'esclavage. C'est souvent un synonyme aussi d'être sauvé. C'est tout simplement ça. Quand on dit que Jésus est notre rédempteur, c'est qu'il est notre sauveur, notre libérateur, celui qui nous a rachetés. Donc, Dieu est venu sauver ceux qui périssaient sous sa propre colère, finalement, ceux qui allaient subir sa colère. Et le verset 25 indique quel est le prix, parce que puisqu'il s'agit d'un rachat, ça veut dire qu'il y a un prix qui a été donné, qui a été payé. Et ce prix-là, c'est le sacrifice de Jésus. En son sang que ça a été gagné, ça, que ce prix-là a été payé. Jésus l'avait déjà annoncé, on lit quand, dans Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, c'est sa propre vie qui a servi à payer le prix pour nous racheter. C'est un sacrifice volontaire de la part du Père qui offre en sacrifice son Fils, mais de la part du Fils aussi qui s'offre en sacrifice. Et dans les deux cas, c'est un sacrifice motivé par l'amour pour sa créature, l'amour pour nous. Jean 3, 16, que nous connaissons bien, dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » et sous-entendu donné en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment ça le but. Il nous a tellement aimés, il voyait qu'on allait périr, que lui-même a pourvu le sacrifice, parce qu'il nous aime. Mais Jésus aussi, on lit dans Apocalypse 5, on l'a lu ce matin, Jésus-Christ qui est le témoin fidèle, le premier né entre les morts, le souverain des rois de la terre. Mais il est aussi celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par son propre sang. Maintenant, je ne sais pas quelle version de la Bible que vous utilisez, mais pour décrire le sacrifice de Jésus, c'est soit le mot « expiation » qui est utilisé, soit le mot « propitiation », un sacrifice propitiatoire. C'est presque des synonymes, mais c'est deux sens légèrement différents. Et bon, j'ai lu beaucoup de commentaires et des dictionnaires, puis j'arrive pas personnellement à me décider lequel des deux sens est le meilleur. Les deux sont vrais, en fait. Mais expiation, ça fait référence à payer la dette du péché, expier une faute, à subir la peine pour que finalement les dommages soient réparés, pour que la tâche soit effacée, que la personne soit lavée, purifiée. Donc, ça met l'expiation met l'emphase surtout sur le pécheur qui doit expier sa faute. La propitiation, donc un sacrifice propitiatoire, c'est le sens de apaiser la colère de Dieu. Donc l'emphase est plutôt mise sur Dieu qui a été offensé. Et le but d'un sacrifice, ou le but de la propitiation, c'est d'apaiser sa colère, de le rendre à nouveau propice, de gagner à nouveau sa faveur, de lui être agréable, de ne plus être sous sa colère. Donc l'emphase est plutôt mise sur Dieu qui a été offensé. Mais de toute façon, on voit que les deux sont liés. Vous vous souvenez comment s'appelait l'endroit qui était sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle ou dans le temple dans l'Ancien Testament? Le propitiatoire. C'était l'endroit où Dieu venait. C'est l'endroit où Dieu était le plus présent au milieu de son peuple. Il venait, bien sûr, et à la condition que les péchés du peuple aient été expiés. Et le jour des expiations, le jour annuel des expiations, il y avait toute une cérémonie. Le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Mais il mettait du sang sur le propitiatoire. Donc, il devait y avoir eu expiation pour apaiser la colère de Dieu. Donc, ça va ensemble. Si la colère de Dieu est apaisée, c'est parce que les péchés sont expiés. Le texte nous invite à, nous indique ensuite à quel point c'était important pour Dieu de montrer qu'il est juste. Sa justice, ce n'est pas seulement théorique, ce n'est pas seulement une de ses qualités, c'est vraiment quelque chose qui se voit dans ses actes. Il est juste dans tout cela, dans son plan de salut pour l'humanité. Et le moyen que Dieu a pourvu prouve, démontre sa justice. Et d'une manière extraordinaire. Il n'y a rien de semblable dans aucune religion que les hommes ont inventée. On n'aurait jamais pu s'imaginer cela, que le Créateur lui-même fournisse un plan, une solution aussi merveilleuse et qui finalement comble tous les problèmes qui sont soulevés. C'est vrai que Dieu est amour, miséricordieux. Dans d'autres religions aussi, les gens se sont inventés une conception de Dieu qui est amour, qui est miséricordieux, jusqu'à un certain point bonasse, et qu'il tolère le péché. Mais on va jusqu'à penser que ce Dieu-là pourrait accepter en sa présence des gens qui sont pécheurs. Ça, c'est un non-sens. Dieu n'est pas seulement amour, miséricordieux, il est aussi parfaitement juste. Il est saint. Et même si, à cause de son amour, Dieu ne désire pas, ce n'est pas ce qu'il souhaite de faire périr les hommes en enfer, il ne veut pas les punir, mais parce qu'il est juste, qu'il est saint, il doit punir. Donc, à nos yeux, il n'y a pas de solution. Il y a eu beaucoup de théories qui ont été conçues, inventées, là, mais ça ne fonctionne jamais. De comment satisfaire ces deux choses-là. Dieu nous aime, donc il veut notre bien, il ne veut pas nous faire périr pour l'éternité, mais il est juste, il doit punir. Et humainement, il n'y a pas de solution à cela. Mais c'est Dieu lui-même qui a pourvu la solution. Et c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, on voyait qu'il manquait quelque chose, ce n'était pas encore final. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai que les fidèles, ceux qui étaient des fidèles serviteurs de Dieu, qui étaient repentants, qui reconnaissaient avoir péché, Dieu leur avait fourni un moyen d'apaiser sa colère temporairement par les sacrifices qu'ils offraient, les sacrifices d'animaux. Mais ce n'était pas encore la solution finale. Comme Hébreux 10 le rappelle, il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte le péché. Ça faisait finalement que d'apaiser la colère de Dieu temporairement et de rendre Dieu patient. C'est pour ça que Paul appelle cette période-là de l'Ancien Testament le temps de sa patience. Mais si Dieu acceptait finalement de pardonner, de justifier certains dans l'Ancien Testament, c'était parce que Dieu avait prévu un jour d'envoyer son Messie, son oint, pour finalement enfin enlever ce péché-là, l'ôter. Donc c'est quoi la solution au problème là, que Dieu nous aime, il ne veut pas nous punir, mais parce qu'il est juste, il doit nous punir? Bien, Dieu lui-même a pourvu cette solution-là. Il a fourni l'agneau pour le sacrifice, l'agneau parfait. Son Fils est venu sur terre en tant qu'homme. Et il a vécu une vie parfaite, sans péché. Donc, c'est un agneau sans tache, parfait. Et finalement, il est mort sur la croix, non seulement rejeté par son peuple, mais vraiment comme offert en sacrifice pour Dieu. Un sacrifice de bonne odeur. Et la justice divine a été satisfaite. Donc, si Dieu avait seulement tolérer le péché, il n'aurait pas été juste. Dieu serait injuste, il ne punissait pas. Mais il démontre à quel point il est juste parce qu'il a pris tous ces péchés-là des gens qui ont cru en lui, qui ont cru en ses promesses, et il les a mis sur les épaules, sur la tête de cet agneau qui a été sacrifié. Et finalement, les deux volontés de Dieu, si on peut dire, sont pleinement satisfaites. Dieu peut faire en sorte qu'il ne nous envoie pas mourir en enfer, mais le péché est puni par son Fils. Mais Paul nous rappelle que cet inestimable privilège là, de voir ses péchés ôtés, c'est réservé seulement à ceux qui ont la foi en Jésus. Ce n'est pas tous les hommes sur la terre qui sont sauvés, ce sont seulement ceux qui croient au Fils de Dieu, qui croient en Jésus. Donc le seul moyen d'être sauvé, on ne pourrait pas le dire plus clairement, là, il n'y a pas d'autre chemin, c'est de mettre sa confiance en Jésus. J'espère que c'est votre cas. J'espère qu'un jour vous avez mis votre confiance pleine en Jésus. Ça veut dire que si c'est vrai, si c'est le cas, vous avez renoncé à être sauvé, à être reconnu juste par Dieu par un autre moyen. Vous avez renoncé à essayer de gagner votre place au ciel, de mériter votre place dans le royaume des cieux. Vous avez reconnu que vous ne pouviez pas, que vous étiez esclave du péché, et vous avez mis finalement là, votre destinée entre les mains de Jésus. C'est vraiment un acte de confiance. Et si c'est le cas, bien, vous vivez le reste de votre vie fondée sur cette confiance en Jésus. Donc, si vous êtes sauvés par la foi, ça nous amène au deuxième implication de la justification par la foi. c'est que vous avez un jour reconnu humblement que vous étiez pécheur, que vous ne pouviez pas mériter votre place dans le royaume de Dieu. Le mot « humblement » est important parce que le salut, la justification, tout ce processus-là exclut forcément l'orgueil. Quelqu'un qui entre dans un processus pour être déclaré juste avec orgueil, bien Dieu lui résiste, ça ne fonctionne pas. Il faut être assez humble pour reconnaître qu'on n'y peut rien, que c'est une pure grâce. Et c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Dieu veut des humbles serviteurs auprès de lui. Ce sont ceux qui s'humilient devant Dieu que Dieu sauve, uniquement eux. Éphésiens 2, 8 et 9 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est vraiment une grâce de Dieu. Et le seul moyen, c'est la foi. « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. » Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Dieu ne veut pas des gens qui vont se vanter d'avoir mérité leur place auprès de lui. Il veut des gens qui vont lui être reconnaissants, reconnaître sa grâce et le louer. Dans Jacques 4, on lit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Dieu ne veut, il veut des gens qui s'humilient devant lui, mais il nous fait l'immense privilège là, de participer à sa gloire. Il va nous élever, il fait de nous des rois, des reines auprès de lui. Mais il faut d'abord passer par l'humiliation, l'humilité. Donc, on est sauvé en obéissant à la volonté de Dieu. C'est vrai. Il y a parfois des gens qui répondent à cette question-là, comment ils pensent pouvoir être, avoir leur place au ciel, entrer au paradis. Ils vont se dire, « Bien, je fais la volonté de Dieu. » D'accord, mais quelle est la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut là, pour nous aujourd'hui, en 2022, ça se résume finalement à croire en Jésus. Si vous faites la volonté de Dieu, pensez avoir accès. Mais c'est vrai seulement si cette volonté-là que vous reconnaissez faire, c'est la foi en Jésus. Donc, quelqu'un pourra avoir mené une vie religieuse, une vie pieuse, avoir fait beaucoup de bonnes œuvres et présenter cela à Dieu pour avoir accès à son royaume. Mais Dieu lui répondra, « Tu as fait toutes ces choses, oui, mais tu n'as pas fait la seule chose que je t'ai demandé pour être sauvé, c'est de croire à mon Fils. » En soi, c'est même présenté comme une œuvre, comme un travail. Rarement, là, mais c'est quand même présenté comme, dans le fond, la seule œuvre qui compte. Parce que ça demande une totale adhésion de croire en Jésus. C'est en soi comme un travail. Jésus dit dans Jean 6, « Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Et lui dire, « Mais que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? » Donc, c'est quoi les œuvres qu'il faut qu'on fasse pour avoir cette vie éternelle? Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Tout passe par là. Si on n'a pas la foi en Jésus, si on ne vit pas par la foi en Jésus, tout ce qu'on accomplit ne vaut rien. Ça n'aura aucun poids pour nous donner un accès au royaume des cieux. Donc, croyez-vous vraiment en Jésus? Lui avez-vous donné toute votre vie? Sincèrement. Pas simplement d'adhérer à une religion, à des pratiques, pas simplement d'avoir une liste de points à cocher. Bon, je fais ça, je fais ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Je devrais être pas pire devant Dieu. Ça fait pas de différence. Est-ce que vous avez vraiment mis votre foi en Jésus pour être sauvé? Avez-vous complètement renoncé à mériter par vous-même ce salut? Humilions-nous devant Jésus. Et ça demeure la règle jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Jésus. Ceux qui sont sauvés demeurent humbles devant Jésus. Qui est lui-même humble, donc ce n'est pas un fardeau. Cette justification par la foi, c'est le troisième point de Paul ici, ça demande l'humilité et ça va même jusqu'à enlever même l'orgueil du juif. Ça nous concerne moins, là, mais même le juif qui a les oracles de Dieu entre les mains, qui a reçu cette révélation-là, qui devait être une lumière pour les nations, d'être l'exemple d'un peuple saint, même eux ne peuvent pas s'enorgueillir finalement de ce salut. Parce que finalement, les hommes de toutes les nations circoncis comme incirconcis, juifs comme païens, sont sauvés de la même manière et de l'unique manière par la foi en Jésus. Acte 4, 12 dit « Le salut ne se trouve en aucun autre. » Ce n'est pas notre foi dans un prophète ou dans un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus seul. Donc, le Dieu des Juifs est en fait le Dieu de tous les hommes. C'est le même Dieu. Le seul vrai Dieu, le Créateur. Et c'est un point important ici à se rappeler, même si nous ne sommes pas Juifs, mais c'est important de nous rappeler que les Juifs, aujourd'hui, en 2022, doivent être sauvés de la même manière que nous, par leur foi, par la foi en Jésus. C'est le seul moyen. Ils doivent reconnaître que le Messie qu'ils attendent, c'est Jésus, qu'il est venu. Ils ne seront pas sauvés, même si un jour le temple est reconstruit, ils ne seront pas sauvés en recommençant à présenter des offrandes ou des sacrifices d'animaux. Ils sont sauvés seulement par la foi dans l'unique sacrifice qui est bon une fois pour toutes et pour toujours, le sacrifice de Jésus. Donc, la justification par la foi, c'est le seul moyen d'être sauvé. C'est réservé à ceux qui s'humilient, qui mettent l'orgueil de côté pour reconnaître qu'ils ont besoin d'être sauvés. C'est bon pour toutes les nations, tout homme, de toute provenance. Et quatrièmement, cette justification par la foi, ça confirme la loi. Même si on n'est plus sous l'ère de la loi, ça vient confirmer, ça l'accomplit. Parce qu'on pourrait conclure, comme beaucoup de Juifs en ont fait le reproche à Paul, « J'étais en train de dire que la loi ne vaut rien. » C'est un blasphème. Tu es en train de dire que la loi que Dieu a donnée à son peuple n'est pas bonne pour nous sauver, pour nous justifier. Comme si ce plan-là n'aurait pas fonctionné, puis là, Dieu est obligé de trouver un autre plan, un plan B en Jésus. Mais c'est faux. En fait, la loi qui a été donnée n'avait jamais pour but de justifier les hommes. La loi, c'est une déclaration de ce que Dieu veut. Le peuple devait agir de telle ou telle manière, et s'il désobéissait, la loi fournissait même des solutions pour apaiser la colère de Dieu. Mais il n'y avait pas de solution à même la loi pour être déclaré juste. Ce n'est pas parce que les hommes s'efforçaient d'obéir à la loi de Dieu qu'ils pouvaient un jour être déclarés justes devant Dieu. Ils demeuraient coupables des fautes qu'ils avaient commises. Et comme ils en ont tous commis, ben finalement, la loi n'était d'aucun secours pour leur salut. Théoriquement, le seul moyen d'avoir été déclaré juste par la loi, c'est de l'avoir respecté à 100% toute sa vie, sans faille. Mais bien sûr, il n'y a aucun homme qui a accompli cela. Donc, d'une manière pratique, la loi ne faisait que condamner. Mais elle n'a jamais eu pour but même de justifier. Mais elle annonçait, même tous les sacrifices qu'ils offraient, ça annonçait la venue d'un sacrifice par excellence. Le rôle des sacrificateurs annonçait la venue du sacrificateur par excellence. Le rôle des prophètes annonçait la venue du grand prophète. Tout cela, finalement, annonçait la nouvelle alliance en Jésus. Donc, ça a toujours été par la foi que des hommes ont été sauvés, même dans l'Ancien Testament. Et on va le voir la semaine prochaine avec Pasteur Dominique, qu'Abraham a été sauvé par la foi. D'ailleurs, il a vécu même avant que la loi soit donnée. Mais même dans l'Ancien Testament, ceux qui ont été déclarés justes par Dieu, ce n'est pas parce qu'ils se sont rachetés en faisant des œuvres ou en obéissant à la loi, c'est parce qu'ils ont cru en Dieu, ils ont cru dans ses promesses. Bon, ils n'avaient pas la même compréhension que nous, que le Messie viendrait un jour nous racheter de nos péchés. Certains l'ont eu, au fur et à mesure que la révélation se précisait, mais ils ont cru simplement dans la parole de Dieu, et Dieu, pour cela, les a déclarés justes. Pas parce qu'il a pris leurs péchés et les a glissés en dessous du tapis, mais parce qu'ils savaient qu'un jour son Messie allait venir payer pour eux. Finalement, ils ont été comme sauvés parce qu'un jour le Messie allait venir. C'est la même manière. Ceux avant Jésus sont sauvés même de la même manière que nous, après Jésus, par la foi dans les promesses de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la foi dans la promesse de la vie éternelle en Jésus, à laquelle nous devons croire. Mais de quelle manière est-ce que notre foi confirme la loi? Ça reste un petit peu mystérieux, là. Le texte se termine là-dessus. Au contraire, nous confirmons la loi par la foi. Certains ont conclu que ça veut dire que la loi, puisqu'elle n'est pas annulée, elle est encore en vigueur et aujourd'hui nous devons continuer à respecter tous les articles de la loi de l'Ancien Testament. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'il ne faut pas manger de porc. Il faut respecter le sabbat le septième jour et pas le premier. Mais on se rend bien compte que finalement, c'est pas ça la solution. De toute façon, Paul va insister souvent là, que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous ce régime-là. Elle n'est plus en vigueur pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est annulée. En fait, c'est vrai que ça dépasse un peu notre compréhension, là, mais on doit comprendre, à la lumière du Nouveau Testament, là, que si nous vivons en Jésus, si Jésus vit en nous, nous accomplissons la loi de l'Ancien Testament. Dieu est pleinement satisfait. Dieu a déclaré quelle est la justice avec laquelle il voulait qu'on vive par sa loi. Et si nous vivons en Jésus, que Jésus vit en nous, non seulement nos péchés sont expiés, donc ce besoin-là révélé par l'Ancien Testament est rencontré, mais même nous accomplissons la justice de Dieu en Jésus. D'ailleurs, Paul va le dire un peu plus loin au chapitre 8, dans Romains. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, il a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Donc, toute la justice, autant l'aspect négatif que positif, est accomplie en nous grâce à Jésus. Nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit que Jésus a mis en nous. Donc finalement, si nous vivons en Christ, nous accomplissons la volonté de Dieu, la justice de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu, en conclusion? Dans la première section de Romains, on a vu que la justice de Dieu, c'est quelque chose qui condamne les hommes, parce que Dieu est un Dieu juste. Ça fait en sorte que tous ceux qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu. Et leur destinée, c'est la mort éternelle. Parce que Dieu est juste. Mais dans sa justice aussi, l'aspect positif, c'est qu'il déclare juste tous ceux qui mettent leur foi en Jésus parce que Jésus a déjà payé pour ces péchés-là. Donc, en tant que juge, Dieu est satisfait. La justice de Dieu est satisfaite. Et même sa compassion pour nous est satisfaite. Puisque Dieu lui-même sera dans la joie d'avoir sa maison remplie. Il veut une maison pleine d'hommes et de femmes de ses serviteurs et servantes. Donc, la justice de Dieu est une mauvaise nouvelle pour les non-croyants, mais est une bonne nouvelle pour ceux qui croient. Mais c'est vraiment une vérité qui est importante de se rappeler. Je suis sûr que pour la majorité d'entre vous, vous connaissiez déjà ces choses-là, mais c'est bon de se le rappeler. C'est pas pour rien que Jésus a institué la table du Seigneur, qu'on se souvienne de cela, là. Et la Bible présente honnêtement le portrait de la vie des croyants sur terre et c'est rempli de joie, mais aussi de souffrance, de douleur, de tristesse. Mais c'est bon de se rappeler cette vérité-là. Nous avons été pardonnés. Nous sommes comptés parmi les justes. Dieu nous regarde et il nous voit saints. Et lorsque nous mourons, même notre âme est accueillie auprès de lui. Et un jour, Dieu va nous redonner un corps que nous puissions habiter avec lui dans sa maison pour l'éternité. Mais c'est encourageant de nous rappeler cela, que Dieu nous a fait grâce. Et Dieu nous a payé un si grand prix pour sauver notre âme, c'est sûr qu'il va prendre soin de nous. Et peu importe les épreuves que nous vivons, il va nous aider à passer à travers. C'est sa volonté qui va s'appliquer dans nos vies. Et je suis sûr que même les croyants qui vivent présentement en Ukraine, qui sont dans une détresse, dans un grand danger, mais ceux qui se tournent vers Dieu et qui se souviennent de cela, que Dieu a payé, leur a fait grâce, les a rachetés, mais ils trouvent simplement dans cette vérité-là un grand réconfort. Et ils peuvent même trouver la source d'être fortifié, de passer à travers cette épreuve-là. Et même si certains connaissent la mort, ce n'est pas pour eux le désespoir, la fin, c'est le début de la nouvelle vie éternelle auprès de Dieu, c'est même une promotion. Mais prions quand même pour eux, que Dieu les fortifie. 1 Pierre 5 dit, « Le Dieu de toute grâce, wow, c'est pas le Dieu de la colère, c'est vrai que la colère pèse, mais maintenant nous le connaissons comme notre bon papa, là. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. »